Vibes. Good Vibes. Bienvenue sur Good Vibes, l'émission des lycéens de Charente-Maritime diffusée sur Radio Collège 95.9. Au programme des podcasts et interviews sur des sujets faits par les jeunes et pour les jeunes.
Bonjour, bonjour, Capucine sur Good Vibe Radio Collège 95.9, une émission très variée encore aujourd'hui avec de nouveaux sujets réalisés par les élèves du lycée Vielle-Jeu et Saint-Ex. Nous avons la bande dessinée, la technologie ou encore la minute philo. Au cours de l'émission, nous aurons la chance d'écouter une musique de country qui vient des Olsa Brothers, un groupe qui vient tout droit du lycée de Vielle-Jeu. Nous commençons tout de suite avec Thaïs et son sujet sur la bande dessinée.
Bonjour, je m'appelle Thaïs et aujourd'hui on va parler d'un sujet, la BD. Aujourd'hui on s'intéresse à un art qu'on croit connaître mais qu'on a souvent sous-estimé, la bande dessinée. Un univers coloré, drôle, parfois étrange, que beaucoup ont longtemps réduit à un divertissement pour enfants. Alors qu'en réalité, il est bien plus profond et influent qu'on ne l'imagine. Les premières formes de BD apparaissent dès le 19e siècle. On parle souvent de Rudolf Töpfer, un auteur suisse comme d'un de ses pionniers. Ses histoires mêlent déjà les dessins et textes caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui le 9e art. À l'époque, la bande dessinée se développe surtout dans les journaux. De petites histoires publiées pour faire rire, pour faire passer le temps, pour ajouter un peu de légèreté dans le quotidien. C'est justement cette origine populaire qui va lui coller une étiquette tenace. Celle d'un art mineur, pas sérieux, réservé aux plus jeunes. Et pourtant, si la BD a longtemps été jugée enfantine, c'est simplement parce qu'elle est accessible. Elle parle à tout le monde. Elle mélange texte et images, deux langages universels, ce qui la rend facile à comprendre et à partager. Mais au fil du XXe siècle, quelque chose change. Les auteurs commencent à utiliser cette accessibilité pour aborder des sujets plus profonds. La BD devient alors un espace de liberté où l'on peut raconter ce que les autres médias n'osent pas toujours montrer. Quelques exemples marquants, la très célèbre série Maus d'Art Spiegelman qui raconte l'histoire de la Shoah à travers des animaux à allure et comportement humain. Cette œuvre graphique d'une puissance extraordinaire qui a même reçu le prix Pulitzer, une première dans l'histoire de la BD. Persepolis de Marjane Satrapi est un témoignage intime de la révolution iranienne, vu à la hauteur d'enfant, grâce à son style simple en noir et blanc. L'autrice parvient à transmettre une émotion brute, immédiate. Plus près de nous, notre époque, notre terre, Les Ignorants d'Étienne Davodeau explore le dialogue et le partage entre un auteur de BD et un vigneron. Une rencontre improbable, mais qui questionne notre rapport au savoir, au travail et à la transmission. Ces œuvres et bien d'autres encore montrent à quel point la BD peut être politique. Elles parlent de guerre, de liberté, de censure, d'écologie, de discrimination. Elles font réfléchir, que ce soit dans des BD destinées aux enfants ou même dans des plus matures. Elles choquent parfois, elles bousculent. Et c'est ce qui les rend si fortes. C'est leur manière unique de raconter. Une seule case peut résumer une émotion, une époque, un combat. L'image frappe et le texte précise, et l'ensemble reste longtemps dans les esprits. Aujourd'hui, la bande dessinée n'a plus rien à prouver. Elle remplit les librairies, elle inspire le cinéma, elle s'invite dans les musées et les festivals. Elle touche les plus jeunes comme les adultes, parce qu'elle parle simplement de choses complexes. Elle a gagné le cœur du public en montrant que, oui, on peut être à la fois accessible et profond. La bande dessinée, autrefois négligée, est devenue un véritable moyen d'expression, politique, culturel et humain. Une preuve que parfois, les images disent plus que les discours. Merci de m'avoir écouté.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
Merci Thaïs pour ta chronique, nous enchaînons tout de suite avec Cassian.
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rendre un dernier hommage à Windows 10. C'était le plus grand, le plus honnête, le plus... Non, je déconne, tout le monde s'en tape. Salut à tous, c'est Cassian du CV Le Jeu, et pour ceux qui n'ont pas suivi, le 14 octobre 2025, Microsoft a arrêté le support de Windows 10, le rendant obsolète. Déjà qu'il n'était pas ouf avant. En gros, si une faille de sécurité est découverte, il n'y aura pas de mise à jour pour la corriger. L'objectif ici pour Microsoft, c'est de forcer tout le monde à passer sous Windows 11, sauf que beaucoup d'ordinateurs ne peuvent tout simplement pas. Bah ouais, je vais pas découvrir une puce TPM 2.0 sur mon PC du jour au lendemain. Du coup, beaucoup font comme l'administration française. Ils mettent la tête dans le sable en priant pour qu'il se passe rien. Pour fréquenter des sites chelous qui finissent pas en .com, je peux vous garantir que c'est pas la bonne solution. De toute façon, vu la sécurité du Louvre, qui met littéralement Louvre en mot de passe, je crois pas que les plus gros soucis de la France soient en manque de mise à jour. Mais il y a pire. Les Américains, comme par hasard. Certains de leurs porte-avions tournent sous Windows XP. T'appuies sur le mauvais bouton et Clippy contrôle le monde. Ils ont confiance, les mecs, hein, pour lancer des missiles avec un truc qui a vu sortir Shrek 1 au cinéma. Le meilleur move de gouvernement, ça reste quand même le Danemark, qui est passé sous Linux. Alors, pour ceux qui prennent des douches, Linux, c'est Windows, mais en open source. C'est la seule alternative qui existe.
Et pour macOS ?
Quoi, macOS ? Non, je veux un PC, pas une calculatrice qui coûte plus cher que le PIB suisse. En tout cas, la fin de Windows 10 a plutôt bien fait parler d'elle, et même si beaucoup de gens restent sous cet OS, on remarque que de plus en plus retéléchargent Windows 7. Parce que quitte à avoir un vieux PC et un OS obsolète, autant le faire avec des graphismes qui rappellent moins l'infâme Windows 8. Donc, si vous l'avez pas déjà fait, tentez de passer sous Windows 11 ou mieux sous Linux, c'est la meilleure chose à faire. Moi, il faut que je m'en aille avant que Windows Phone ne me retrouve. A plus.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9. Merci Cassien, et maintenant nous allons écouter Virgile qui nous parle de l'opération Barkhane au Sahel.
Le 29 janvier 2015, Francis Ford de Coppola déclare « Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté et l'exclusion. Il faut le traiter en supprimant ses causes. » Mais ce n'est visiblement pas la voie privilégiée par la France au Sahel entre 2013 et 2022. Au début des années 2010, le Mali, un pays du nord de l'Afrique majoritairement désertique, est en proie au chaos. Des groupes rebelles Touareg, qui se transforment rapidement en groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, prennent le contrôle du nord du pays et y imposent la charia. En mars 2012, face au risque d'effondrement total de l'État malien et à la menace d'une avancée djihadiste vers la capitale, les autorités maliennes implorent l'aide de la France. L'opération Serval est déclenchée. Son objectif est clair, stopper l'avancée des groupes terroristes et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. En quelques jours, environ 4000 soldats français sont déployés. Et, en moins de 2 mois, les forces françaises, appuyées par l'armée malienne, stoppent la progression djihadiste à Kona et libèrent de l'emprise terroriste les villes de Gao, Tombouctou et Kidal. Après ces résultats spectaculaires sur le plan militaire, François Hollande est accueilli en héros dans les rues de Bamako. L'intervention française permet également la tenue d'élections présidentielles en juillet 2013, remportée par Ibrahim Boubacar Keïta, marquant le retour d'une certaine stabilité au Mali. Cependant, malgré ce succès militaire indéniable, les causes profondes du conflit ne sont pas résolues. Les groupes terroristes se dispersent et se réorganisent, profitant de la faiblesse du nouvel État malien. C'est dans ce contexte que la France lance le 1er août 2014 l'opération Barkhane. Celle-ci vise à élargir l'action militaire française à l'ensemble du Sahel, couvrant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. En tout, c'est près de 5100 soldats qui sont déployés à son apogée, la plus vaste opération militaire française depuis la guerre d'Algérie. Le dispositif s'appuie sur plusieurs bases majeures réparties sur l'ensemble du Sahel. L'opération combine frappe aérienne, mission de renseignement et opération terrestre menée conjointement avec les forces locales. S'ensuivent 8 ans de combats perdus dans l'immensité du désert saharien, dans la fureur des tempêtes de sable et sous les chaleurs écrasantes, comme le chantent des soldats français en opération.
Tu es loin de chez toi, c'est là que tu vois ce qui compte pour toi. À des milliers de kilomètres, tu gardes dans ta tête ce qui t'attend là-bas. Toujours plus loin dans le désert, des dunes, des dromadaires, un paysage lunaire. Soleil couché, l'heure de décompresser dans la BOAT. Un bon lit bien douillé, non, carré maté du V. Tempête de sable, on n'est pas prêt au lait. Les pièges du sol africain jouent des tours à plus d'un véhicule tout terrain. Rocher saillant, sable mouvant. Qu'on est dans, c'est tout de suite moins marrant.
malgré les importants moyens déployés et quelques succès notables comme la neutralisation de nombreux chefs terroristes, parmi lesquels Abdelmalek Droukel et Adnan Abou Walid El-Sarraoui, les difficultés s'accumulent. Le pouvoir malien, gangréné par la corruption, est incapable de répondre aux besoins des populations du nord et du centre du pays, et perd vite toute crédibilité. L'armée malienne s'est elle aussi montrée inefficace malgré l'assistance étrangère, et souvent coupable d'exactions, alimentant le ressentiment des populations locales. De plus, en étendant le champ d'action à tout le Sahel, l'opération Barkhane cherche à construire une approche régionale de la lutte antiterroriste. Mais cette ambition sort à la réalité, une zone immense de près de 5 millions de kilomètres carrés, soit un soldat français pour couvrir l'équivalent de 10 fois la ville de Paris. La France s'est progressivement retrouvée piégée dans une guerre asymétrique sans fin, à poursuivre un ennemi insaisissable dans un environnement hostile, au milieu d'États fragiles et d'alliés peu fiables. Les groupes djihadistes, mobiles et enracinés dans la communauté locale, ont su échapper à la puissance technologique française en s'adaptant au terrain. Dans cet immense territoire, l'armée est contrainte de multiplier les opérations ponctuelles sans jamais pouvoir changer la situation sur le long terme. Parallèlement, un sentiment anti-français grandit au sein des populations, alimenté par des campagnes de désinformation, souvent orchestrées par la Russie via la milice Wagner. La présence française, initialement perçue comme une aide, est, en moins de 10 ans, accusée d'occupation, de néocolonialisme et finit par être considérée comme une forme d'ingérence. De plus, la communication de l'opération Barkhane est rigide et incapable de contrer les campagnes de désinformation russes. L'absence de résultats visibles pour la population, qui continuait de subir insécurité, pauvreté et violence, a nourri une frustration grandissante. Ce rejet est aussi le symbole d'une rupture générationnelle. Une nouvelle jeunesse africaine, connectée et politisée, refuse la tutelle implicite de la France, perçue comme une puissance colonialiste. En 2022, le gouvernement malien rompt avec la France et se rapproche de Moscou. C'est la fin de l'opération Barkhane. Le Sahel demeure aujourd'hui une zone d'instabilité majeure. L'État français a demandé à ses ressortissants de quitter le Mali au plus vite, en raison d'un blocus imposé par des groupes djihadistes depuis septembre contre la capitale, paralysant le pays déjà fragilisé par le départ des forces armées françaises. L'engagement militaire français au Sahel, entre 2013 et 2022, devait être l'illustration d'une France garante de la stabilité régionale et d'une puissance capable de contenir le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Près d'une décennie plus tard, le constat est amer. La région est plus instable qu'avant l'intervention, la présence française est rejetée et l'influence de Paris s'effondre au profit de nouveaux acteurs comme la Russie. Cette évolution met en lumière les limites, voire les contradictions d'une stratégie française prisonnière d'une logique post-coloniale, mal adaptée aux réalités africaines contemporaines. Barkhane a fini par symboliser non pas la protection, mais l'impuissance occidentale face à des menaces enracinées dans des contextes sociaux et historiques complexes. Sébastien Tixier, Valentin Duval, Damien Noblet sont 3 des 59 noms qui figurent sur la liste des soldats français morts pour un pays qui finira par les haïr.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9. Merci beaucoup Virgile pour ton sujet très instructif. Je vous laisse découvrir le groupe de country du lycée Vielleux, Allster Brothers, avec leur musique Canadou and Whiskey Too.
I'm having drinking problem, I'm not situated. Walking in and be, I walk straight to him. You made me feel something. I started believing that you love got teeth. Now my ones are bleeding. I used to sleep through the night just fine. Now I'm fighting strangers every time. This ain't love, girl. It's a twisted game. But I see poor shot every time I hear your name. You stole my star, stole the fridge. Dunk it through the bud like a damn I'd say repeat. Love's a sick use, and I'm the fool. Don't push it with a ghost that drinks too. Canadou. ce qui tue. You got me crawling back each night, like a swipe right on a bad idea. My bones say, bro, she's posing straight. And I say, but she's good with a stain. You dress me up and leave me red. Glass in the glass, but what did I expect? I say I'm done, then crack a broom. But I still push on every time I see you. You stole my star, stole the fridge. Don't get through the bullet like a damn I'd say repeat. Love's a sickness, and I'm the fool. Grown for a seat with a ghost that drinks too. You ain't got eyes, you ain't got a name, but I had you close, all the same. You're glass and fire, not flesh and bone. Still I chase you like I die alone. You stole my star, stole the free. Don't get through the bullet like a damn I'd say repeat. Love's a sickness, and I'm the fool. Grown for a seat with a ghost that drinks too. Canada and whiskey too.
C'était le groupe de country du lycée Vielleux. Nous passons à la minute philo avec Ethan.
Bonjour les auditeurs, c'est mon premier jour à l'antenne et je viens apporter une nouvelle rubrique à Good Vibe. Il s'agit d'une rubrique sur le thème de la philosophie qui s'appellera « La pensée de l'homme ». Dans cette dite rubrique, je pourrai parler de plusieurs sujets, mais avec pour but principal de vous présenter ma vision de la réalité et j'espère qu'elle vous aidera. Sur ce, commençons avec une simple question. Pourquoi on est tant attaché au passé? Mais enfin, pourquoi les hommes galèrent tant à accepter la réalité et surtout à considérer la défaite? En effet, on voit la défaite comme la fin, comme le mauvais choix. Mais est-il vraiment de mauvais choix? Eh bien, pour moi, non. Chaque chemin, une fois emprunté, devient réel et s'incorpore à la réalité. L'autre devient un « et si » un « what if ». Tu marches actuellement sur le fruit de tes choix, volontaires ou non. Il y a des défaites, des victoires, des égalités, mais au final, peu importe ce qui a pu arriver, aujourd'hui, tu marches toujours sur ces chemins, tu vas aller plus loin que jamais. Les soi-disant défaites, elles t'ont mené à ce que tu es aujourd'hui, toi. Que ce toi te plaise ou non, tu vas devoir accepter ce que tu es. Tu ne veux pas avoir un masque greffé à ton visage toute ta vie, alors arrête de te demander « et si j'avais gagné ?» Parce que tu n'as pas gagné. Tu as perdu ce jour-là, et maintenant tu avances et tu te concentres sur ton chemin. Parce qu'à ce que je sache, tu ne veux plus perdre, n'est-ce pas?
Je vous souhaite une bonne réflexion et merci à Ethan. Notre dernier sujet porte sur les produits transformés par Arthur, Colin et Louis.
What is the secret of Soylent Green?
J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux.
Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein?
On ne s'y habitue pas.
Oh, il faudra bien. Il n'y aura plus que ça bientôt.
Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche.
What is the secret of Soylent Green?
Le gras, c'est la vie.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre mini-série de podcasts sur notre alimentation, notre environnement et notre santé.
Salut à tous et bienvenue dans notre podcast.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, les produits ultra transformés. Vous les connaissez forcément, c'est des aliments qu'on trouve partout, des supermarchés jusqu'aux cantines scolaires. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'ils contiennent ? Est-ce qu'on connaît les effets qu'ils peuvent avoir sur notre santé ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui.
Exactement, parce qu'on en mange tous, mais on sait rarement ce qu'il y a dedans. En gros, les produits ultra transformés, ce sont des aliments qui ont subi plein de traitements industriels. Ils contiennent souvent des ingrédients que tu ne retrouves pas chez toi, comme des conservateurs, des colorants, des édulcorants, des arômes artificiels. Un bon exemple, les sodas, les plats préparés ou encore les bonbons.
Et le problème, c'est qu'en plus de tout ça, ces produits sont souvent remplis de sucre ajouté, de graisse saturée, de sel, sans oublier qu'ils sont hyper caloriques. Quand tu manges ça régulièrement, à long terme, ça peut vraiment avoir un impact sur ta santé. Ça augmente le risque de maladies comme les problèmes cardiaques, le diabète, voire même certains cancers. Et c'est sans parler du côté addictif. Ces produits peuvent vraiment créer une dépendance, ce qui fait qu'on en mange de plus en plus.
C'est vrai. Et tu vois, ça ne s'arrête pas là. Un autre problème majeur, c'est l'environnement. Parce que la production de ces produits, déjà, demande beaucoup d'énergie, mais en plus, ils sont souvent emballés dans du plastique, du film cellophane, etc. Ça génère énormément de déchets. Alors si tu rajoutes à ça la pollution liée au transport, tu te rends vite compte que l'impact écologique est énorme. C'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi comment ça affecte la planète.
Oui, et il faut aussi penser à la qualité de ces produits. Quand tu regardes une étiquette, tu vois qu'ils contiennent des additifs qui, au fil du temps, peuvent perturber notre organisme. Par exemple, certains conservateurs sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, ce qui peut nuire à notre système hormonal. En plus, les produits ultra transformés manquent souvent de nutriments essentiels comme des fibres ou des vitamines. Ce qui fait qu'on mange plein de calories mais on ne nourrit pas vraiment notre corps.
En fait, plus on consomme ces produits, moins notre corps reçoit ce dont il a vraiment besoin. Et ça, ça peut avoir des conséquences graves sur notre bien-être à long terme. Mais tu sais, ce n'est pas forcément une question de tout ou rien. L'idée, ce n'est pas de bannir tous les produits transformés mais de faire plus attention à ce qu'on met dans notre assiette.
Oui, et surtout, il y a des alternatives. Par exemple, choisir des aliments frais, cuisiner un peu plus à la maison, ça peut faire une grande différence. C'est sûr, ça prend un peu de temps, mais c'est tellement mieux pour notre santé et pour l'environnement.
C'est ça, on n'est pas en train de dire qu'il faut devenir végétarien ou bio à 100%, mais faire des choix plus naturels comme manger des fruits, des légumes, des produits de saison, c'est déjà un énorme pas en avant. Ça peut vraiment changer la donne pour toi et pour la planète.
Voilà, en résumé, fuir les produits ultra transformés, c'est un choix bénéfique à la fois pour notre santé et pour la planète. Ce n'est pas toujours facile, mais en faisant de petites étapes chaque jour, on peut vraiment améliorer notre alimentation et réduire notre impact environnemental.
Exactement. Le tout, c'est de trouver un équilibre. On espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur ce sujet. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain podcast.
Good Vibes sur Radio Collège 95.9.
En bonus dans cette émission, nous retrouvons la chronique Come As You Are sur le glam rock par Lullaby et Sgt Pepper.
Bonjour et bienvenue dans Come As You Are, l'émission pour briller auprès de ton oncle fan de musique en repas de famille.
Moi c'est Lullaby.
Et moi c'est Sgt Pepper et dans notre deuxième épisode, nous allons parler du glam rock.
À la fin des années 60, alors que se termine la British Invasion et que de nombreuses rockstars décèdent, le public est en manque d'un style musical dominant. Les années 70 vont donc être riches en nouveautés musicales. Plein de styles apparaissent, dont...
Le hard rock.
Loupé, le glam rock. Il se développe au Royaume-Uni vers 1973 et se finit en 1980. Les groupes représentants du style sont T-Rex, David Bowie, dont on reparlera dans la deuxième partie, Gary Glitter ou encore Roxy Music. Tout a commencé en 1971, lorsque Mark Bolan, chanteur de T-Rex, arrive sur scène avec des paillettes sur les joues et un style beaucoup plus simple que d'habitude. Ça peut paraître pas grand-chose, mais ça va inspirer de nombreux autres groupes et c'est comme ça que le glam rock va apparaître. Un style provocateur, excentrique, rempli de paillettes et de strass et qui revient aux bases du rock'n'roll.
Donc on n'est pas sur le short t-shirt d'Imagine Dragons, quoi.
L'apparence visuelle a une grande importance dans le style. Comme j'ai dit juste avant, il y a des paillettes, des tenues à strass, du maquillage, des talons, même pour les hommes qui adoptent un style androgyne, comme c'est le cas chez David Bowie.
Donc t'as dit, il y a une esthétique marquée et un retour aux bases du rock'n'roll, et comment ça se traduit musicalement ?
Après la montée du psychédélique, on revient à un style plutôt simple. Des chansons répétitives, assez courtes et rapides qui permettent de danser. Niveau instruments, basse, batterie, des guitares saturées, du piano, parfois des cuivres ou des synthétiseurs. Le glam rock inspire beaucoup. Premièrement, le public. Il a ouvert la porte à des libertés de style, de genre, remet en question les codes de la société et s'oppose au conservatisme. Son identité visuelle inspira aussi de nombreux autres groupes qui se formeront plus tard, comme Queen ou Lou Reed. Et le style a une grosse influence pour d'autres genres qui sont nés ensuite, comme le punk, ils ont beaucoup de points communs, ou le glam metal. Je laisse maintenant la parole à Sgt Pepper, qui va nous parler d'un des meilleurs albums qui ait jamais existé. Non, je suis pas objectif.
Au programme de cette chronique, drogue, alien et androgynie, on va bien sûr parler de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. Alors David Bowie, au début des années 70, il se démarque pas particulièrement des autres chanteurs de l'époque. Mais son cinquième album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, ancrera à jamais le mythe de Bowie.
Qu'est-ce que l'album a donc de si particulier pour se démarquer des autres artistes de l'époque ?
Eh bien, l'œuvre, en plus d'avoir un nom extrêmement long, a la qualité d'avoir une histoire. Elle ouvre la longue lignée des personnages de David Bowie. En fait, David Bowie s'est, tout le long de sa carrière, créé de nombreux personnages. Par passion pour les alter-ego, par folie toxicomane ou simplement pour vaincre sa timidité. Il se cache derrière eux et les incarne, tant sur scène que dans sa tête, en exacerbant ses propres traits. Pour revenir à notre album, le personnage principal de celui-ci, Ziggy Stardust, rockstar androgyne envoyé de Mars, n'est pas seulement le protagoniste de l'histoire, puisque ça n'est pas un opéra rock avec des musiques qui suivent ou suivent un scénario. En fait, c'est plutôt comme si c'était lui qui avait composé l'album et qu'il y racontait son histoire.
Quelle histoire y raconte-t-il donc ?
Le titre d'ouverture, Five Years, annonce que la Terre vit ses 5 dernières années. Ziggy Stardust, membre du groupe The Spiders from Mars, verra sa carrière exploser. Et il s'enfoncera toujours plus dans la soif de notoriété, dans la toxicomanie et la dépravation jusqu'à être dévoré par son propre orgueil et tomber en disgrâce. Tout le long de l'album, on voit des thèmes récurrents. D'abord l'espace, Starman, Ziggy Stardust, Moon Age Daydream. L'espace et la vie extraterrestre sont ici des métaphores de la marginalité.
J'ai l'impression d'être l'année dernière avec Rimbaud.
Mais également de la dissociation. On y parle aussi de sexe et de drogue, qui sont des thèmes récurrents dans les personnages de Bowie, et donc aussi dans sa vie.
Et tout ça, ça donne quoi en musique ?
Eh bien, musicalement, l'album, il est... waouh ! C'est l'essence même du glam rock. Une espèce de théâtre de la musique. On passe de moments plutôt tranquilles à des envolées lyriques où tout explose, des chœurs, des violons, et on entend David Bowie crier, pleurer, à la manière des grands personnages de tragédie. Ce que j'aime avec cet album, c'est que même en mélangeant plein de styles, puisqu'on y trouve des inspirations du rock'n'roll, des autres artistes pionniers du glam rock comme Lou Reed ou Iggy Pop, ou même des prémices du punk, il y a quand même un style général, notamment grâce à la voix de David Bowie, qui est très reconnaissable avec son style androgyne et exagéré. Et pour la fin de cette chronique, je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui est pour moi la musique la plus forte de l'album, la dernière des 11 pistes, Rock'n'Roll Suicide. Alors qu'on est passé par toutes les émotions au cours de l'album, qu'on a vu naître et exploser le personnage de Ziggy Stardust, après les trois dernières musiques, les plus dansantes de l'album, comme pour montrer l'apogée de la folie du personnage, tout se coupe. Puis une simple guitare acoustique et une voix fatiguée. It lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. C'est pour moi la musique qui illustre tout l'album. Alors que Ziggy Stardust, déchu, erre dans les rues, confronté à sa propre faiblesse, David Bowie vient lui parler, pour lui dire ces mots « Tu n'es pas seul ». La musique se charge progressivement en instruments. Guitare, voix, guitare électrique, batterie, cuivre, chœur. Et à la fin, David Bowie, plus que chanter, crie. Je verse ma petite larme à chaque fois.
C'était le deuxième épisode de Comme As You Are, et on se dit comme d'habitude à dans 2 semaines pour une émission sur le gothique. D'ici là, portez-vous bien, et comme le dit David Bowie,
oh, oh no love, you're not alone. Oh no love, you're not alone.
You're watching yourself, but you're too unfair. You've got to handle... Merci à tous ces élèves qui ont participé à la deuxième émission de Good Vibes. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. C'était Capucine pour Good Vibes, diffusée sur Radio Collège 95.9 FM. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur radiocollège.fr. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.